Vous leur dites littéralement merci, bravo, à vos chevaux, à chaque fois.
Mais je les embrasse, et pas n'importe où. Pour leur remercier, je vous fais une confidence.
Faites.
C'est entre les cuisses de derrière.
Oh bah, Alexis, on est quand même vendredi.
France Inter. Le best-of, Augustin Trapenard.
Il a une particularité.
Alexis Grus.
C'est qu'il lui manque un sens. Nous, on a cinq sens parfaitement équilibrés. Lui, il lui en manque un, c'est celui du toucher. Et c'est là où il y a cette complémentarité entre l'homme et l'animal. C'est que nous, on lui a apporté ce cinquième-là, par le toucher, le geste. Moi, ce que je défends, c'est justement cette particularité-là de la transmission du geste, la transmission de l'éphémère. Un geste, il n'y a pas plus éphémère. Demandez à un artiste, n'importe quel artiste que ce soit, les musiciens, les peintres, tous vous diront, si j'abandonne 5 minutes le geste, je le perds. Donc c'est une chose qui doit se retransmettre au moment où vous savez le faire.
Jacques Gamblin, c'est certainement le plus beau cadeau qu'il m'ait été donné, je ne sais pas par qui, par moi-même maintenant en tout cas, d'écrire, parce que c'est l'endroit où tout peut arriver, c'est l'endroit où la liberté est totale. On peut vous enchaîner, on peut vous ficeler à une chaise, mais on ne pourra jamais vous empêcher de penser. Et penser, à un moment donné, c'est écrire.
C'est précisément la raison pour laquelle j'écris.
Dan Brown,
je veux créer un dialogue. Alors les gens disent, parfois, vos livres sont controversés. Très bien, pas de problème, ça me plaît. Moi, je dis que ce que j'écris, c'est l'histoire de personnages inventés qui ont un dialogue. Et si vous n'aimez pas leurs propos, très bien. Libre à vous. Je ne vous dis pas que c'est un livre d'histoire. Je vous dis que ce sont des personnages inventés qui donnent leur point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord lorsqu'ils parlent de religion ou de science. Mais c'est ça qui rend la fiction si intéressante.
Catherine Corsini, quand est-ce que vous avez compris, vous, que la culture, c'était un instrument de domination ?
Ça, je l'ai compris justement en voyant des films, en voyant que le cinéma pouvait être un outil de propagande et aussi comment ça pouvait être. C'est pour ça qu'il y a des films que je déteste quand tout d'un coup les films vous indiquent ce que vous devez penser. Et c'est là où je me dis qu'il faut faire vraiment attention. Je suis très très sensible au libre arbitre. Je suis très très sensible au fait qu'on puisse choisir, qu'on puisse comprendre et que les films ne soit pas une espèce d'étouffoir dans lequel on vous met, on vous dit c'est ça qu'il faut penser, ou dans les films où on vous instille aussi un climat de terreur qui fait qu'on est complètement, on n'est plus soi-même, quoi. Et je pense qu'effectivement, la culture, il faut faire attention à ce qu'elle ne vous écrase pas et à ce que ne vous exclut pas.
Jacques Gamblin.
Mais ça veut dire que la culpabilité qui nous habite, l'illégitimité, moi, j'ai mis énormément de temps à me voir comme un écrivain aussi parce que je me sens, j'ai un gros complexe d'inculture, parce que j'ai pas de mémoire dont je retiens pas ce que je vois, parce que je n'aime pas les livres au fond, enfin tout ce qu'on n'apprend pas quand on est très jeune, c'est cuit, c'est difficile, c'est comme le temps perdu, ça se rattrape pas. Donc moi j'étais plus dehors quand j'étais gamin plutôt que dans les bouquins et l'école m'emmerdait, etc. Donc je me suis construit une autre culture avec laquelle je me débrouille très bien, mais j'ai toujours un peu honte comme ça quand on me parle de références, qu'on me parle avec des tas de références et tout ça, je sais jamais quoi en faire.
Catherine Corsini.
La culture ça n'existe pas, c'est ce que les personnes en font, c'est leur imaginaire, c'est chacun peut amener sa culture, chacun peut amener quelque chose, une pierre à l'édifice. Il n'y a pas cette culture figée qui vous écrase, quoi.
David Guetta, est-ce que vous savez dire non, vous ?
J'ai appris dernièrement, et c'est quelque chose de très important, mais ça fait pas longtemps que je sais. Quand on veut réussir, qu'on a l'ambition d'être au top de son activité, on peut pas se donner de limites. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je disais oui à tout. Et je me suis rendu compte avec le temps que ça rend fou. À des stades où les gens ont des dépressions. Dernièrement, dans mes collègues, il y a un ami qui s'appelait Avicii et qui s'est suicidé malheureusement. Parce qu'on vit dans des métiers où on a énormément de pression. où on est aussi accro au succès. Parce que le succès, c'est très addictif. Et une des choses qui me rend le plus heureux, c'est de faire de la musique. Mais après, la question est, de quelle manière ?
Alexis Grus.
L'art, pour moi, c'est le travail effacé par le travail. Il n'y a pas une autre manière de définir l'art. C'est lorsqu'on offre, lorsqu'on donne une somme de travail considérable. C'est sublimer le naturel de la nature. C'est de prendre la nature telle qu'elle est, et la rendre encore plus belle qu'elle est. Parce que la nature, elle met tout à votre disposition, mais elle fait rien pour ça. C'est à nous de le faire.
Lorsque l'on achète un roman, on n'achète pas les mots que l'auteur met sur la page, on achète les mots qu'il n'a pas mis sur la page. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que le lecteur ait une expérience pleine, passionnante, et je veux que chaque mot qui frappe votre rétine ait du sens. Et s'il y a une information qui vous arrive à vous, eh bien c'est parce que vous en avez besoin.
Jacques Gamblin. En fait, j'écris pour raconter, pour tenter toujours de dire ce qui est impossible à dire. C'est ça pour moi écrire, c'est des sensations qui sont très fortes ou des émotions très fortes que je vais tenter de nommer, d'approcher par l'écriture, et en sachant que je n'y arriverai jamais. J'ai la trouille, tu sais, avant de jouer tous les jours, et ça commence dès le matin. Mais pourquoi chacun, dans notre métier, nous sommes nous donnés ce qu'il y a de plus difficile à faire? Personne ne nous a forcés, personne. Alors pourquoi? Parce qu'on aime les défis? Qu'on aime se faire mal? Ou bien a-t-on choisi de se faire mal pour se justifier d'être là? Tu sais, je voudrais ne plus m'en vouloir autant quand je rate. Je ne veux plus me demander d'être parfait. Je ne veux plus croire que tout le monde me le demande. Non, personne ne me le demande. Personne. Juste moi. Et c'est trop. C'est une grande prétention pour un homme de se surévaluer. Et si, à partir d'aujourd'hui, nous appelions l'échec la victoire à l'envers?
David Guetta, quel genre de famille est-ce que c'était, la famille Guetta?
C'est assez spécial, hein, chez moi. J'ai invité ma fiancée, enfin ma copine, un jour chez moi, à passer Noël. Ma copine qui est cubaine, ses parents sont réfugiés politiques aux États-Unis, elle a grandi aux États-Unis, donc compliqué avec l'histoire du communisme et tout ça. Et voilà que toute ma famille se met à chanter des chants révolutionnaires, l'international, tout ça. Et alors, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette famille de dingue le jour de Noël? Donc voilà, ça peut être ça, les réunions familiales, mais tout ça dans la bonne humeur.
On assiste à un clivage de la société, les riches, les pauvres, les croyants, les non-croyants. Et ça, c'est une grosse préoccupation, à mon avis. En effet, il n'y a plus de modérés.
Catherine Corsini.
Je pense que on est déjà dans une société en France assez, il y a un côté un peu machiste, un côté, comme on dit, latin, soi-disant. Il y a une espèce toujours de revendication. On a peur peut-être de perdre des repères ou de perdre une certaine ou une autorité ou quelque chose de, une représentation comme ça. Donc ou quelque chose par rapport à sa virilité, ce qui est complètement stupide. Il faut essayer, au pareil, de réinventer un tout petit peu et de se positionner différemment.
David Guetta. On peut le dire entre nous, parce que là, on est vraiment entre nous après cette émission. Vous êtes sourd.
Je suis sourd, vous l'avez vu dans le réglage de mon
casque. C'est-à-dire, quand
casque,
on a réglé nos micros, David l'a mis très très fort. C'était très inquiétant.
Mais alors, je suis sourd et c'est officiel. Hein. J'ai fait un test. Je suis sourd. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon métier, malheureusement.
Un pied dans les flammes, un autre dans la gueule. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom. Je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau. Mais faut pas m'en vouloir, c'est pas méchant. C'est juste que souvent j'en ai rien à... Rien à foutre, pas de doute. J'éjacule du style et j'en ai foutu partout. C'est la fête tous les soirs dans la capitale. Conscience décapitée, on verra les dégâts plus tard. Aïe. Mon appart c'est le QG quand on traîne. Y'a toujours un frère qui parle à maman. Nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine comme le parlement. Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir. J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt.